France Musique. Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et en cette période de vacances, j'avais envie de vous faire voyager, de vous faire humer le vent frais, de vous faire entendre la sonorité naturelle qui berce l'océan depuis des millions d'années. Et qui plus est, hier c'était la Journée internationale de la baleine. Bonjour Michel André.
Bonjour Saskia.
Merci d'être avec nous, vous êtes bioacousticien, directeur du laboratoire d'applications bioacoustiques de l'Université Polytechnique de Catalogne. L'avez-vous célébré cette fameuse Journée internationale de la baleine ?
Oui, bien sûr. Enfin, nous le célébrons de différentes manières. Nous les écoutons. Nous avons cette chance d'être en direct dans plusieurs endroits de l'océan avec des observatoires acoustiques qui nous permettent d'être en contact direct avec elles. Donc, nous les écoutons et nous essayons de comprendre leur message.
Et c'est ce dont nous allons parler ce matin avec vous, évidemment. Qu'est-ce que la bioacoustique, tout simplement ?
Alors, la bioacoustique, c'est la science qui étudie le son de la vie. Le son de la vie, c'est-à-dire les sons produits par tous les êtres vivants et qui sont partagés de fait par tout ce tissu vivant, sur Terre comme dans la mer. Tous les êtres vivants, et cela inclut les plantes, sont sensibles à ces sources sonores. Eh bien, la bioacoustique étudie les phénomènes de production, de réception, mais aussi les problèmes qui peuvent empêcher cette bonne transmission des sons.
Et qu'est-ce que ces êtres vivants ont à nous dire ?
Ça, c'est une vaste question. Alors, les êtres vivants, je pense qu'ils nous le disent depuis toujours. En fait, notre nature partage, à mon sens, un sens de la communication qui est universelle et qui leur permet justement à tous ces êtres vivants d'échanger des informations qui sont vitales pour l'équilibre de la nature. Et ce que cette nature nous dit en ce moment, c'est qu'elle approche d'un point, malheureusement, de rupture et que si nous ne réagissons pas à temps, eh bien, il est fort probable que notre planète voit des changements drastiques qui vont affecter notre propre survie sur Terre.
Et vous êtes très engagé sur ces questions-là, hein. Nous allons en parler avec vous, Michel André. Vous vous intéressez en grande partie, je peux dire ça comme ça, aux sons sous-marins, mais lorsque l'on plonge, on n'entend rien.
Vous avez tout à fait raison. Alors pour la première partie, je m'intéresse aux sons sous-marins, et dans la deuxième partie, vous avez raison, l'homme n'entend pas sous l'eau. Notre oreille n'étant pas faite pour capter des sons sous l'eau, et donc nous avons ignoré une dimension acoustique qui existait pourtant depuis des millions d'années. La mer n'a jamais été un monde du silence. D'ailleurs, une mer en silence est une mer morte, tant les bruits sont importants. De fait, c'est la seule façon que tous les habitants de la mer ont pour communiquer. La lumière ne pénétrant pas à plus de quelques mètres de la surface, eh bien, le son est vraiment le support de communication. Eh bien, l'être humain n'est pas physiologiquement adapté pour écouter ces sons sous l'eau. Et ce n'est que grâce à l'avènement de la technologie, l'adaptation de microphones au milieu marin, que nous avons pu, il y a une trentaine d'années, découvrir cette nouvelle dimension.
Des microphones adaptés, appelés hydrophones. Je vous propose d'écouter ici quelques extraits que vous nous avez rapportés. Qu'entendons-nous ici, Michel André ?
Alors ça, ce sont des enregistrements qui ont été réalisés en Arctique par des capteurs immergés à plus de 300 mètres de profondeur, sous la glace donc, et nous avons ici une combinaison, un petit concert de bruit de glace, alors de sifflement de la glace, mais aussi de baleines qui chantent pour échanger des informations dont on parlait justement, vitales pour leur survie.
Et elles chantent moins aujourd'hui alors ?
Alors non, elles ne chantent pas moins aujourd'hui. Le problème, c'est que leurs chants sont perturbés par la pollution sonore. Donc, cette pollution produite par nos activités en mer, quelles qu'elles soient, le transport, les constructions de parcs éoliennes, la recherche pétrolière, les manœuvres militaires, toutes ces activités produisent des sons artificiels qui, depuis une centaine d'années, depuis que nous avons commencé à exploiter la mer de façon industrielle, eh bien, perturbent cet équilibre millénaire. Et justement, ces baleines et d'autres D'autres espèces, évidemment, ce ne sont pas que les baleines qui sont affectées, eh bien, doivent s'adapter, mais malheureusement, c'est une course contre la montre, car les dommages que cette pollution sonore sont en train d'effectuer au niveau global, eh bien, sont difficilement réversibles.
Et c'est vrai que face aux autres types de pollution plus visibles, hein, le plastique, le pétrole, les déchets chimiques, etc., cette pollution sonore est plus cachée en quelque sorte, moins connue. Qu'est-ce que nous risquons aujourd'hui à ne rien faire?
Alors vous avez raison, c'est une pollution qui est invisible et qui a été inaudible pendant toute notre humanité. Donc nous disions, nous avons ignoré complètement cette dimension, et ce n'est que depuis quelques décennies que nous en sommes conscients. Eh bien, il y a des choses que nous pouvons faire parce que la différence de ces pollutions visibles, vous l'avez nommé le plastique par exemple, qui a une durée de vie dans les océans d'une 300 à 400 ans. Eh bien, les sons, une fois qu'on les éteint, qu'on les coupe, leur effet devient absolument nul. Donc ça, c'est une bonne nouvelle qui nous permet de développer des technologies pour limiter la production de ces sons, surtout autour de ces activités qui n'en ont pas besoin. On comprend bien que le bruit que produisent les bateaux n'a aucune utilité pour le bateau en soi. Il ne va pas aller plus vite. Et donc, nous avons tenu durant tout le développement de ces bateaux à isoler les passagers de ces bruits provenant des salles, enfin, moteurs. Eh bien, nous n'avons jamais pensé que ce bruit pouvait être létal. Et nous commençons maintenant, donc, les chantiers navals à isoler de plus en plus
Ces salles des
ces
machines,
moteurs.
oui.
Voilà, exactement. Et aussi à dessiner des hélices qui cavitent moins. Alors, la cavitation, c'est un phénomène qui est associé à ces hélices, quand elles tournent trop vite, eh bien, il y a des microbulles qui se forment et l'explosion de ces microbulles crée un bruit d'une intensité extraordinaire. Nous pouvons changer cela sans perturber la capacité du bateau à se déplacer.
Et je vous propose d'écouter quelques secondes pour le plaisir cette bande son, cette magnifique combinaison de sons de l'Antarctique. Ici, nous avons des phoques et des baleines. Magnifique son de phoque et de baleine ici que nous offre notre invité ce matin, Michel André, bio-acousticien. Louis et la perception des sons, des vibrations, est également le seul sens que nous partageons tous sur cette planète.
Absolument, c'est le sens qui nous permet de nous comprendre. Alors l'homme ne comprend plus cette communication universelle dont on parlait. Et je pense que cette rupture avec la nature que nous constatons maintenant est bien plus ancienne que certaines théories qui la placeraient dans les dernières 50 années, quand nous avons commencé vraiment à utiliser de façon industrielle tous les recours que la nature nous proposait. Mais à mon sens, ça remonte à l'époque où nous avons commencé à articuler notre langage, donc il y a à peu près 150 000 années. Et c'est à ce moment-là que nous avons sans doute perdu le contact avec la nature, et ce qui explique qu'aujourd'hui nous la comprenons plus et nous revendiquons presque notre extraction de ce tout, puisque nous disons l'homme et la nature, comme si nous faisions une différence entre notre vie sur Terre et celle que partagent toutes les autres espèces.
Mais alors, comment recréer, renouer le dialogue, peut-être grâce à la science ou aux arts? On va en parler. Juste avant cela, Michel André, j'aimerais qu'on écoute votre choix musical. Doudou Nyan Rose, Cheikh Anta Diop, c'est le titre.
Thank you.
Cheikh Anta Diop de Doudou Ndiaye Rose. C'est votre choix musical, Michel André. Vous nous en parlez ?
Oui, alors ce choix musical porte sur une étude scientifique que nous avons menée pour essayer de comprendre le système de communication chez les cétacés, en particulier chez les cachalots. Et ce système de communication, nous avons découvert qu'il se basait sur un concept rythmique, c'est-à-dire que les sons qu'ils produisent 80% de leur temps pour chercher leur proie, pour s'orienter, eh bien, ont une composante rythmique qui est celle qui contiendrait l'information qu'ils se transmettent. Et quand nous avons eu l'occasion d'écouter un concert de Doudou Ndiaye Rose, nous avons trouvé une similitude rythmique, évidemment, qui nous dépasse parce que notre oreille occidentale n'est pas habituée à cette polyrythmie. Et donc, nous avons rencontré ces maîtres tambours du Sénégal qui utilisent les tambours pour communiquer l'histoire de leur tribu. Il n'y a pas de tradition orale ni de tradition écrite. Et tout passe par les tambours. Et en fait, quand un nouveau-né apparaît dans cette tribu, il est baigné par cette dimension rythmique. Quand il atteint un certain âge, à son tour, il décide de jouer du tambour. Un adulte vient l'aider à trouver son rythme et il rentre dans cette roue rythmique de communication qui est vraiment très dynamique et très complexe. Il y a plus de 40 joueurs de tambour qui interviennent. Ce sont des acteurs de la communication, mais le maître tambour est le seul à raconter cette histoire. Eh bien, nous avons trouvé des dimensions rythmiques chez les cachalots qui sont absolument similaires à ce que ces maîtres tambours et ces tribus du Sénégal utilisent. Et c'est la base, en fait, de notre étude sur le système de communication, cette polyrythmie qui permet à ces êtres qui sont séparés de plusieurs dizaines de kilomètres dans la mer de se comprendre, de s'orienter et de vivre en harmonie.
Magnifique lien entre nature et culture. Ah, c'est vrai que sous l'eau, le son se propage à des centaines de kilomètres, j'ai lu ça.
Oui, et non seulement il se propage très loin, mais il se propage très vite, 5 fois plus vite que dans l'air, à 1500 mètres par seconde, en comparaison à 300-340 mètres par seconde dans l'air.
Alors, chaque samedi matin, on s'intéresse à ces liens qui unissent écologie et culture. C'est aussi pour ça que j'avais envie de vous entendre ce matin, Michel André. Justement, là, vous évoquiez ces maîtres tambours qui suivent un même principe de communication que ce que vous avez découvert chez les cachalots. Est-ce que l'art, est-ce que la culture peut, mieux sensibiliser, mieux faire connaître justement cette terrible pollution sonore marine? Est-ce que vous mener des projets avec des artistes autres que ces maîtres tambours?
Oui, en effet, vous avez raison. L'art, en général, est un moyen de communication qui est fondamental et qui partage avec la science certains objectifs, comme celui de comprendre la nature qui nous entoure, mais avec une liberté dont ne dispose pas la science. Vous savez que en science, on doit tout démontrer, on n'affirme rien sans avoir pu le démontrer et sans pouvoir reproduire cette démonstration. Eh bien, l'art a cette capacité, bien sûr, de nous permettre d'imaginer et d'aller au-delà. Et cette imagination et ce côté artistique nous permet aux scientifiques d'accéder à des idées nouvelles et c'est notre rôle ensuite d'essayer de le démontrer. Donc, il y a ce cercle vertueux entre l'art et la science qui est fondamental et qui nous alimente, qui, je pense aussi, alimente l'art dans certains de leurs aspects. Eh bien oui, aussi nous partageons cette aventure donc artistique et scientifique avec beaucoup d'artistes, en particulier un artiste français, Loris Gréau, avec qui nous travaillons depuis plusieurs années et avec qui nous élaborons des idées justement, des concepts qui permettent de tendre ces ponts essentiels entre l'art et la science.
Et quoi plus exactement, vous nous l'expliquez ?
Alors, je peux vous parler d'un projet particulier qui était son idée. Un article qui avait apparu il y a quelques années, produit par le MIT aux États-Unis, découvrait que certains êtres unicellulaires dans la mer devenaient bioluminescents quand ils étaient exposés à certaines fréquences. Et il a eu l'idée de réaliser un concert pour les créatures de la mer en faisant appel à un groupe de pop rock qui jouerait en direct grâce à un streaming au travers de haut-parleurs sous-marins et de différentes fréquences, évidemment. Et ces êtres unicellulaires deviendraient bioluminescents et en fonction de la fréquence, ils deviendraient bleus, jaunes, rouges, etc. Une espèce de feu d'artifice sous l'eau, pas pour l'homme, puisque nous ne pouvions pas le voir, mais pour ces créatures de la mer. Et nous avons pu collaborer avec Floris en apportant la technologie qui permettait de transmettre ce concert pour ces créatures vers cet haut-parleur que nous avons réalisé à quelques kilomètres de la côte de Toulon, à plus de 3000 mètres de fond, où se trouve un observatoire à neutrinos, Antares, qui nous a permis, à notre tour, de relayer ce concert et de le renvoyer à New York, où était ce groupe qui jouait en direct. Et donc, ça a été une boucle entre la surface et ce fond marin, ces êtres bioluminescents qui ont permis aux cachalots, aux baleines, aux dauphins, aux poissons, d'observer la mer comme ils ne l'avaient jamais vue.
Comment le son se propage-t-il sous l'eau? Vite, plus vite que dans l'air. 1450 mètres par seconde contre 340 mètres par seconde. Et vraiment loin. Le son produit par de nombreux animaux marins peut se propager à des kilomètres. Le son est donc essentiel pour eux. Il leur permet de percevoir leur environnement, collecter des informations, comme localiser la nourriture ou se protéger, et de communiquer pour attirer des congénères ou se rassembler. Le monde sonore particulier des profondeurs est évidemment le plus méconnu.
Un extrait de ce projet de Snorks, A Concert for Creatures, concert donc pour les fonds sous-marins dont vous nous parliez à l'instant, Michel André. Alors, il n'y a pas que l'océan dans votre vie, il y a aussi la forêt amazonienne. Hein. Vous menez d'autres projets au sein de la réserve naturelle de Mamiroa, qui est perdue à 500 km de Manaus. Vous nous avez aussi donné du son, mais il est déjà 48, Michel André. Vous me donnez presque envie de changer de métier pour venir vous rejoindre et écouter tout cela. Moi, je vous ai choisi, vous me pardonnerez, on n'est pas au Brésil, mais on est au Pérou, une superbe cumbia amazonienne pour terminer cette rencontre. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Michel André. À très bientôt, je l'espère, sur France Musique pour d'autres découvertes avec vous.
À réécouter sur francemusique.fr.